Aujourd'hui, à la balado Sportaide, c'est un grand plaisir de recevoir Fabrice Ville. Fabrice qui est entrepreneur social, ancien joueur de basketball, coach de basketball, avocat aussi, cofondateur de Pour 3 points. Et il est aussi administrateur chez Sportaide. Alors, Fabrice, c'est un grand plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui.
Bien, le plaisir est partagé. Merci de m'accueillir.
Hey Fabrice, moi j'aimerais qu'on débute, parce que c'est pas tout le monde, moi je veux jamais présumer que les gens savent. J'aimerais que tu nous dises ce qu'est pour 3 points et comment t'en es venu à créer pour 3 points.
Oui, pour 3 points c'est un OBNL, c'est une organisation qui forme des coachs de sport pour que ces coachs-là jouent un peu un rôle de mentor auprès des jeunes, particulièrement les jeunes en milieu défavorisé. Donc c'est une organisation qui a été créée pour, en fait, utiliser le contexte du sport, mais particulièrement l'influence des coachs, de manière à ce que les jeunes développent leur potentiel pour une réussite éducative et une réussite sociale. Donc, c'est une organisation qui existe depuis maintenant, depuis 2011. Donc, ça fait près de 10 ans, ça fait maintenant 9 ans. Moi, je suis investi à temps plein pour 3 points depuis 2013. Et... notre programme principal, c'est un programme à travers lequel les coachs qu'on sélectionne font un parcours de 8 mois avec nous, où on les accompagne de manière à soutenir leur propre développement, puis que ça fasse des effets, un effet multiplicateur auprès des jeunes. Et en ajout, en fait, de ce programme principal-là, on offre également, en fait, de la formation, plus d'initiation au principe de formation qu'on utilise. Donc, c'est vraiment un programme qui a des fins d'utilité sociale, mais qui utilise le sport comme levier, qui est basé à Montréal, qui a commencé à Montréal, mais qui de plus en plus commence en fait à interagir avec des entraîneurs à l'extérieur de la grande région de Montréal.
Parce qu'il y a de la demande à l'extérieur aussi.
Exactement.
C'est de plus en plus connu.
Exactement. Fait que l'organisation devient de plus en plus connue, puis on est bien content de ça, mes collègues et moi. Les entraîneurs qui déposent leur candidature pour le programme viennent de principalement de la grande région de Montréal, mais si je ne me trompe pas, on a 5 entraîneurs de la région de Québec cette année qui étaient avec nous durant le début de notre programme qui a commencé au mois d'août pour cette année. Donc, on parle de l'année 2020-2021. Et c'est sûr et certain que le fait que ça facilite, qu'on soit maintenant en ligne pour une bonne partie de nos formations facilite la capacité de rejoindre les entraîneurs de manière plus large. Mais oui, essentiellement, à la base, le fait d'être plus connu bien, facilite le travail de rejoindre en fait des jeunes, des coachs dans d'autres régions. Parce que bon, les défis qui nous interpellent ne sont pas limités à la région de Montréal. Là. Mm-hmm. C'est des défis qui sont partout à travers le Québec, puis à travers le pays également. Et donc, mes collègues et moi, on est bien contents qu'on puisse tranquillement, pas vite, répandre la portée de notre intervention.
Mais ça t'est venu comment, ça, l'idée de créer pour 3 points? Parce que tu étais avocat.
Oui.
Ton chemin était tracé. Tu aurais pu faire une carrière d'avocat toute ta vie.
Mais oui.
Pourquoi s'impliquer de cette manière-là?
Ce qui m'interpelle, les enjeux d'égalité des chances, de justice sociale m'interpellent depuis très longtemps. Mon parcours personnel a à voir avec ça. Le fait d'être d'origine haïtienne, moi je suis né à Montréal, mes parents sont arrivés d'Haïti à la fin des années 70. Je parle de mes origines parce que Haïti est un pays qui a souffert, en fait, des impacts de la colonisation. Donc, Christophe Colomb, d'ailleurs, est arrivé, l'île où il est arrivé, c'est l'île qui est devenue aujourd'hui l'île d'Haïti. Et on parle beaucoup de racisme aujourd'hui, bien, ça prend racine dans tous les rapports de pouvoir entre les colonisateurs puis les peuples qui ont été colonisés, l'esclavage qui interagit avec tout ça. Et ça, ça a des impacts quand on parle d'Haïti comme pays pauvre aujourd'hui. Donc là, je ne ferai pas un cours complet sur l'histoire d'Haïti. Mais comme enfant, le fait d'être d'origine haïtienne, moi, je grandissais, puis mes parents me parlaient un peu de l'histoire d'Haïti, ils me parlaient de qu'est-ce qui se passait en Haïti, ils me parlaient aussi je voyais des livres d'histoire où je feuilletais un peu, puis j'avais à ma conscience, en fait, les enjeux qu'Haïti subit comme pays, et la communauté aussi haïtienne à Montréal, en fait, de voir que elle est... les phénomènes historiques, en fait, se perpétuent. Et il y a beaucoup de membres de la communauté haïtienne qui sont affectés par les enjeux de pauvreté. Et c'est encore présent même par la diaspora. Donc, moi, ça a été proche de mon environnement de voir ces enjeux-là. Et aussi, le fait que j'ai grandi dans le nord-est de Montréal, j'ai grandi à Anjou, qui n'est pas un environnement pauvre, c'est un environnement de classe moyenne, mais il y a des HLM, des habitations à loyer modique à Anjou, et d'autres quartiers, donc on parle beaucoup dans l'actualité de Montréal-Nord, il y a plus dans l'ouest de Montréal, mais un peu dans l'ouest, plus dans le nord de Montréal, mais à l'ouest d'Anjou, il y a le quartier Saint-Michel, où j'étais très présent. Dans ce vécu-là, moi, j'ai beaucoup été sensibilisé aux enjeux liés à la pauvreté, puis ce qui est particulièrement vrai en lien avec le fait que j'ai fréquenté beaucoup des collèges privés qui étaient plus de plus proche du centre-ville de Montréal. Donc moi, j'ai grandi en regardant, quand je prenais le métro, puis je comparais.
Ben oui.
Je comparais, en fait, les univers. Donc les inégalités sociales, ça a toujours été quelque chose qui me faisait réfléchir quand j'étais plus jeune. Et en même temps, là, si je m'éloigne un peu de la complexité de la pauvreté, j'en suis venu convaincu que le coaching, un bon coach peut faire une différence dans la vie d'un jeune. Moi, je suis tombé amoureux.
Tu as réalisé ça en bas âge ou?
Assez vite quand même. Moi, j'ai joué au...
Parce qu'il y a un coach qui t'a influencé, qui t'a marqué.
Exact. Ben j'ai commencé à faire du sport organisé à l'âge de 11 ans au secondaire en jouant au basketball, mais j'ai commencé à jouer au soccer. J'ai eu des coachs dans ma vie depuis l'enfance. De l'âge de 5 ans jusqu'au secondaire, j'ai fait du soccer l'été comme plusieurs jeunes le font, mais ça m'a pas tant marqué. Je suis tombé amoureux du basketball au primaire, puis c'est vraiment quand j'ai commencé mes études secondaires, puis j'ai commencé ma première équipe de basketball au Collège Brébeuf, que mon premier entraîneur... Je me souviens très bien, ça a cliqué, là. Le premier entraînement, la sélection, ce dont il parlait, avait pas tant de liens, avait des liens avec la pratique sportive, le talent, mais même, je me souviens, j'ai pas le speech en détail, là, mais il avait nommé le talent comme étant un élément qui était regardé. Mais tous les autres facteurs avaient vraiment... Ça avait des facteurs qui avaient des rapports avec autre chose, l'effort, l'écoute, la discipline. Donc, finalement, je remarquais déjà bien à ce moment-là, la première pratique, qu'il y avait autre chose qui était important pour cet entraîneur-là. Et en même temps, j'ai été sélectionné dans l'équipe, puis je l'ai bien vécu dans la manière dont il interagissait avec moi, avec les parents, et ça a été vrai tout le long de mon parcours secondaire que mes entraîneurs avaient ce souci-là qui était beaucoup plus... qui allait bien au-delà de la performance sportive. Je suis devenu entraîneur moi-même, puis ça a été un peu ma philosophie aussi. Fait que, le Collège Brébeuf, c'est un programme qui a historiquement eu beaucoup de succès en basketball, en termes de victoires. Puis c'est là où c'est intéressant, parce que cette tradition-là de succès sportif, elle était entre autres due à une forme de structure de soutien des jeunes qui était positive. Donc, des fois, on dit que c'est incompatible, mais non, ça n'allait pas du tout. Puis, pour revenir à l'intention pour 3 points, parce que tu me demandais pourquoi c'est quoi qui m'a animé. Bon, j'ai fait mes études en droit, puis bon, la pratique du droit... J'ai pratiqué pendant quelques années. Je trouvais ça super intéressant, mais ça venait pas me chercher dans mes tripes profondément.
Disons que j'ai de la misère à t'imaginer aussi.
Aujourd'hui, avec mon chandail à capuchon, mon hoodie, puis mes jeans, tu sais. Et plusieurs fois, j'allais au Palais de justice de Montréal pour travailler. Puis je rencontrais des amis d'enfance avec qui je joue au basketball dans les quartiers où j'ai navigué, où j'ai grandi. Puis souvent, c'était des amis qui n'avaient pas nécessairement les mêmes chances au niveau de leur environnement familial, la pauvreté. Donc, il y avait vraiment une différence. Je le savais dès mon adolescence. Puis le lien que je fais, c'est que je les voyais au palais de justice. Souvent, ben, ils faisaient face à des accusations criminelles. Certains n'avaient pas de diplôme d'études secondaires. Donc, les facteurs sociaux auxquels ils étaient confrontés avaient des impacts dans leur univers de vie. Et c'est tous des gars qui... C'est généralement des gars. Tous des gars qui étaient des amis qui n'étaient pas moins intelligents que moi. Mm-hmm. Là. C'est vraiment juste que l'environnement n'était pas l'idéal, familial. Et j'avais observé aussi à quelques reprises Puis ça, même quand j'étais jeune, j'avais observé que certains faisaient du sport, puis je voyais même leurs entraîneurs de sport qui n'avaient pas tout le temps des comportements qui étaient les plus sains dans une perspective éducative.
C'est donc, pas moi, comparable je faisais la comparaison. À ce que tu avais vécu, là.
Je faisais la comparaison. Je disais, pourquoi moi, je me fais encadrer, puis c'est presque un parent que j'ai, puis je vois des comportements qui, des fois, c'est le langage, la posture. Puis je me dis, mais non, mais ça, c'est pas supposé arriver. Et que pour trois points, en fait, c'est comme un mélange de toutes ces considérations-là, de dire, mais finalement, un entraîneur va pas tout régler les enjeux de pauvreté, mais il peut au moins soutenir un jeune de manière positive, surtout des jeunes qui, parfois, le stéréotype de la famille monoparentale, avec un parent qui est absent, puis l'autre parent qui travaille plusieurs emplois différents en temps partiel pour mettre la nourriture sur la table, ça existe, c'est pas une fiction. Et donc, l'entraîneur a une place prépondérante, particulièrement dans ces contextes-là. Donc, pour trois points, c'est vraiment simplement une espèce de point culminant de tous ces enjeux-là qui m'interpellent depuis que je suis jeune, tu sais. Puis je suis content de voir que ça ait vu le jour, puis que ça dépasse aussi mes intérêts personnels, parce que là, comme on l'a nommé, il y a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent, puis chaque personne y trouve, y accorde une importance selon leur parcours de vie ou leur motivation.
Comment tu as réussi à mobiliser des gens autour de ça? Parce que le monde du sport est très teinté par la performance. Vous ne logez pas du tout à cette enseigne-là, vous ne l'excluez pas, mais c'est pas à cette enseigne-là que vous logez. Comment tu as réussi à mobiliser autour de ça?
La manière dont on a réussi, qu'on a utilisé pour mobiliser des individus, ça a été vraiment de parler de qu'est-ce qui est l'intention qui va au-delà du sport, justement. Puis ça va jusqu'aux activités qu'on mettait en place. Parce qu'au point de départ, pour trois points, c'était pas un programme de formation de coach. Les premières années, quand j'étais bénévole, les premiers programmes, on a travaillé avec une école dans le quartier Saint-Michel de Montréal. On travaillait avec une première équipe, puis deux, puis quatre équipes. Et c'était d'offrir de l'encadrement en périphérie de ce qui se passait au sport. Donc, les équipes qui participaient au programme de Pour trois points, c'était des équipes dont les athlètes, les jeunes, étaient obligés de faire de l'aide aux devoirs qui était fournie par notre organisation. On faisait des activités éducatives, des conférences. On faisait beaucoup d'activités justement qui soutenaient le jeune au-delà de sa pratique sportive. Puis c'est drôle parce que dans l'architecture de qu'est-ce qu'on a mis en place à ce moment-là, on a réfléchi à qu'est-ce qu'un bon entraîneur fait. Puis on s'est dit, le bon entraîneur surveille les notes ou regarde les notes. Le bon entraîneur parle de sujets qui vont au-delà de la pratique sportive. Puis on a été chercher d'autres intervenants que le coach. Fait que là, essentiellement, de faire ça, ça a déjà, au point de départ, mobilisé des gens autour de quelque chose qui était plus large que la question sportive. Donc, les tuteurs qui étaient mobilisés, les mentors, on avait des mentors pour les jeunes qui étaient mobilisés, puis c'est tous des anciens athlètes. Tout le monde avait un dans son ADN, en fait, une forme de reconnaissance que le sport avait une valeur, mais que ça allait au-delà. Les premiers membres de conseil d'administration étaient tous et toutes des anciens sportifs ou des anciens entraîneurs. Donc, c'est tout ce monde qui connaissait la valeur du sport pour au-delà de la performance. Puis de continuer à parler de qu'est-ce qu'on fait sans s'antagoniser, en fait, l'idée de la performance. Parce que je pense que le point, c'est pas non plus de s'exclure du contexte sportif dans lequel on est. Ça a surtout été de vendre l'idée que... de promouvoir l'idée que il y a une utilité sociale, puis il y a des gens qui s'y retrouvent autour de ça. Je nommerais aussi, par rapport à ça, que c'est même dans les institutions avec lesquelles on collabore, nos premiers, en fait, les personnes qui y adhèrent beaucoup, c'est les directions d'école. On a eu des interactions avec les commissions scolaires. Au niveau gouvernemental, on est partenaire du secteur éducation primaire, préscolaire et études secondaires. Donc, on est beaucoup très proche de l'univers santé et éducation. On n'est pas hors de la sphère sportive, mais c'est vrai que les gens qui adhèrent à ce qu'on fait ne sont pas nécessairement des sportifs aussi. C'est souvent des gens qui, soit ils ont un parcours sportif puis qui en voient la valeur, ou encore ce sont des personnes qui n'ont pas de parcours sportif, mais qui croient que c'est important de soutenir l'éducation des jeunes. Et c'est vrai que de plus en plus, on est en interaction avec des institutions ou des individus qui arriment les deux. Donc, Sportaid, pour moi, en fait partie, la promotion d'un sport sain. On est vraiment dans le même esprit, puis on n'est pas les seules organisations à s'intéresser à ça.
Et t'as nommé quelque chose dans ta réponse. De bons entraîneurs. On fera pas le portrait de mauvais entraîneurs. L'actualité s'en occupe. Mais qu'est-ce qu'un bon entraîneur?
Je m'amuse souvent à nommer que d'abord, quand on parle d'entraîneur, c'est intéressant de regarder le mot en anglais, le mot coach. Puis je sais pas si on s'en est parlé, toi puis moi, oui.
Pour le besoin de la discussion, je trouve intéressant que tu le ramènes.
Oui, donc le mot coach, c'est un mot qui provient d'un mot qui est coche, je ne sais pas si je le prononce bien, mais dans le temps, si je ne me trompe pas, de la Renaissance, ou c'est soit le Moyen-Âge ou la Renaissance, en Europe, il y avait c'est vraiment des véhicules, là, c'est comme des charrettes qui étaient tirées par des chevaux, qui transportaient soit des marchandises ou des individus qui voulaient aller d'une ville à l'autre, donc c'est un moyen de transport tout simplement. D'ailleurs, l'autobus de Marc Coach. Donc, le mot coach, c'est simplement un mot qui réfère à un véhicule pour quelqu'un qui veut aller dans une destination donnée. Donc, quand on pense à c'est quoi un bon entraîneur, c'est drôle parce qu'en français, entraîneur, il y a le mot traîner, c'est comme on peut traîner quelqu'un. Alors que quand on pense au véhicule, c'est vraiment en fonction de où est-ce qu'une personne veut aller. Il y a quelqu'un qui lui permet de véhiculer ou d'avancer. Donc, pour moi, le coach sert un peu à ça, de servir de guide, par moment, de modèle, de référence. Mais c'est pas quelqu'un... En fait, tu sais, sans entrer dans tout ce que l'actualité révèle par rapport aux abus ou quoi que ce soit, mais si on dit l'opposé, c'est que c'est pas quelqu'un qui va dicter, en fait... nécessairement le cheminement de l'individu ou de l'athlète. C'est quelqu'un qui va être présent en soutien. Par moment, oui, offrir du challenge, mais toujours dans une perspective d'accompagnement. Fait que dans le grand ordre des choses, dans la philosophie de Pour Trois Points, c'est un peu ça. Nous, on parle beaucoup de l'approche humaniste. Et l'approche humaniste, le fondement, c'est vraiment ça. C'est que c'est une philosophie qui existe de manière générale. L'humanisme, ça a été appliqué dans plusieurs domaines, entre autres en enseignement. Ça a été largement référé en enseignement, moins en coaching, mais le fondement, c'est la croyance que l'humain est déjà complet et que quelqu'un qui est en posture d'enseignement ou de coaching ne va pas avoir la prétention que l'humain devant est incomplet. Donc, et ce que ça implique dans des actions concrètes, c'est justement d'avoir une posture de questionnement, une posture de responsabiliser l'autre, de soutenir son autonomie et de respecter aussi que cette personne-là, dans un groupe, peut avoir un mot à dire dans la prise de décision, donc de se démarquer d'une approche qui est très autocratique, de dire « bon, mais moi, je décide, puis j'impose ».
De maintenir c'est la notion de traîner.
Exact. Oui, je le sais, je te traîne. Tu sais, il y a quelque chose là qui est un peu problématique selon moi. Puis de dire non, j'ai ma posture, j'ai mes connaissances, mais je vais questionner, je vais t'inclure dans la conversation, puis qu'ensemble, on détermine qu'est-ce qu'on veut faire. Je ne sais pas si tu regardes, je vais faire un petit clin d'œil de l'actualité du divertissement, mais je ne sais pas si tu regardes. Occupation double.
J'en entends parler. J'en entends beaucoup parler.
Dans ta famille,
particulièrement de Charles.
Exact. Exactement. Fait que c'est drôle. Le beau leader.
Le leader autoproclamé. Là.
C'est drôle parce qu'on peut bien rire de lui. Moi, j'en ris. Je suis un fan d'Occupation double. Puis on peut bien rire de lui. Puis pas de lui. De rire de qu'est-ce qu'il promouvoit, tu sais.
Ouais.
On peut bien rire de qu'est-ce qu'il promouvoit. Puis en même temps, c'est représentatif de la manière dont plusieurs personnes dans la société voient le leadership. Tu sais, c'est comme j'entraîne, je traîne les autres, je mène, puis je décide que je suis un leader, puis je parle de moi. Puis... Alors que finalement, le leader, oui, par moment, je crois, il y a une pertinence à s'affirmer. C'est sûr, c'est pas juste de s'effacer, mais il y a une place aussi à exercer son pouvoir pour laisser la place aux autres. Donc, un bon entraîneur, pour moi, fait ça. Et ce bon entraîneur-là fait ça, que l'intention première soit le développement du jeune ou que l'intention première soit la performance sportive. Et je dirais même qu'à la fin de la journée, je pense que les deux sont vraiment proches. Les meilleurs entraîneurs que je connais se soucient quand même du développement de leurs jeunes. C'est assez difficile d'être un bon entraîneur, selon moi, et carrément exclure l'idée de s'intéresser à l'humain qui est devant nous. Mm-hmm.
Tout à l'heure, tu as mentionné le fait que quand vous entrez dans un processus de formation avec une cohorte, c'est une formation de 8 mois, mais tu as dit on doit les sélectionner. On les sélectionne. Vous les sélectionnez sur quelle base, sur quels critères?
Oui. Ça fait quelques années qu'on a développé un canevas de différents critères de sélection. Je nommerais les critères essentiels qui sont les critères qu'on utilise. Un des critères, c'est cette motivation-là pour le contribuer à améliorer en fait la société de manière large. Donc, il faut quand même trouver chez la personne un minimum de volonté que la société en général elle aille mieux. Puis c'est pas obligé d'être tout le monde le même enjeu, nommé de la même façon. Mm-hmm. D'ailleurs, dans la dernière, cette année, notre cohorte, le thème du recrutement, c'était coach pour l'humanité. C'est dire, bon, mais puis la thématique, c'était coacher pour les jeunes, pour sa communauté, pour l'humanité. C'est cette volonté-là de voir à ce que soutenir le jeune dans son développement ou que la société aille mieux est quand même présent. Donc, c'est dans l'ADN, c'est dans les valeurs de notre organisation. Un autre critère essentiel, c'est la volonté d'apprendre. J'ai déjà vu des situations où des entraîneurs avaient cette volonté-là, partageaient nos valeurs, et n'avaient pas nécessairement saisi qu'on était un programme de formation. Il n'y avait pas nécessairement l'ouverture à apprendre. Et donc, ce qui arrivait, c'est qu'on se regardait et on disait, dans une formation, mais pourquoi tu es là finalement? Dans l'interaction, il n'y avait pas nécessairement cette volonté-là de justement être dans une posture de développer de nouvelles connaissances. Donc, on questionne sur nos entraîneurs beaucoup sur qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher dans le programme de formation? Même s'ils n'ont pas vécu, c'est quoi qu'ils veulent développer comme nouveaux apprentissages? Et un lien, il y a un lien qui est quand même à faire aussi, c'est que c'est pas juste par rapport à des notions théoriques, il y a aussi l'ouverture à l'introspection, parce que le programme de Pour 3 points est ancré sur une compréhension que le coach, dans son rôle, n'est pas intéressé uniquement aux techniques et tactiques sportives. Mm-hmm. Il est intéressé à lui-même, il est intéressé à son interaction avec les autres, à l'environnement, bien entendu, mais ça commence de lui-même. Il y a vraiment un aspect qui est ancré dans se connaître soi-même.
C'est pour ça que je t'entends parler, puis pour moi, c'est pas un programme de formation, c'est un programme de développement.
C'est intéressant. Parce qu'on joue dans notre équipe des fois à se poser la question comment qu'on le définit. Et on utilise aussi le mot développement. Et je pense que ce serait exact de dire que ça s'étend au-delà de la formation au sens des notions cognitives. Ben oui, il y a un aspect développemental qui est très fort. D'ailleurs, en fait, notre programme a été bâti en partenariat avec le laboratoire de recherche en psychologie sportive de l'Université McGill. Et on travaille avec plusieurs individus qui sont en psychologie développementale, qui sont en coaching, en développement du leadership. Donc, l'aspect de développement est très, très fort. Donc, un coach qui... Et le développement implique souvent de se voir aller dans certains patterns de comportement, de se questionner, puis de se remettre en question. Donc, et c'est pas nécessairement tout le monde qui a une ouverture à ça, à le faire de manière explicite. Donc, c'est sûr que c'est important qu'il y ait une certaine forme d'ouverture à ça.
Vous êtes dans un contexte où vous travaillez avec une clientèle où les jeunes, ce sont des jeunes défavorisés. Est-ce que tu penses que le modèle de développement que vous avez de des individus, des entraîneurs, peut être compatible à l'environnement sportif où là, c'est davantage la performance qui dicte le quotidien de nos sportifs puis de la communauté qui l'anime?
Moi, je pense que le modèle, oui, il est applicable. Je pense que la distinction principale, hein, dans qu'est-ce qu'on fait par rapport à d'autres contextes, c'est la partie environnementale. Donc, j'ai nommé dans ce qu'on regarde chez un coach, mais la dimension personnelle, relationnelle, professionnelle, donc les tactiques et techniques, puis la dimension environnementale. La dimension environnementale, ce qu'elle indique, c'est bien, une école n'est pas pareille qu'une autre, un centre communautaire n'est pas pareil qu'un autre, un club civil n'est pas pareil qu'un autre, un quartier n'est pas pareil qu'un autre. Mais si on met de côté cette variable, et donc ça amène ça amène des adaptations au contexte. Mm-hmm. Mais si on exclut cette variable-là, dans l'approche par rapport aux jeunes, moi, je suis plus que convaincu que ça soutient la performance sportive. Et généralement, on est assez proche. Je vais donner des exemples. Quand on pense au... Moi, je suis quelqu'un de basketball. Hein, fait quand on pense au sport professionnel, puis je prends la NBA, les Celtics de Boston, quand on pense à Brad Stevens, qui est un coach qui était à l'université Butler aux États-Unis. Connais-tu Brad Stevens? Connais-tu le basketball un petit peu?
Oui, bon. Oui.
Alors, puis je vais quand même le mettre assez simple. Là. C'est pas besoin d'être un initié pour que tout le monde nous saisisse, mais dans le basketball universitaire, il y a environ 300 équipes en division 1 mm-hmm. en basketball. Et c'est très compétitif pour se rendre, en fait, au plus haut niveau puis gagner un championnat. Puis Brad Stevens, dans les dernières années, avec l'université Butler, il est arrivé avec une petite école qui était très peu reconnue. Là, c'était pas une école qui était dans les écoles traditionnelles qui avait du succès. À se rendre en finale contre l'université Duke. Et l'approche était vraiment une approche très similaire à l'approche qu'on utilise dans le sens de développement. Et il est rendu maintenant entraîneur-chef des Celtics de Boston. Puis les Celtics de Boston ont énormément de succès. D'ailleurs, mm-hmm. il y a ceux qui ont battu les Raptors oui, cette année. L'approche de Brad Stevens, qui est un jeune coach, il a moins de 40 ans, ce coach-là, c'est une approche qui était une approche qui est très dans le développement, dans le soutien de l'individu, qui n'est pas dans l'approche autocratique. Greg Popovich chez les Spurs mm-hmm. de San Antonio, même chose. Phil Jackson, Doc Rivers même chose. Mm-hmm. Ces coachs-là sont des coachs qui sont vraiment des coachs qui ont une approche très humaine. Et ça, je parle du sport professionnel. Quand on prend les Warriors de Golden State qui ont mm-hmm. eu énormément de succès, c'est du leadership qui est très inclusif, qui est très à l'écoute. Donc ça, c'est des exemples professionnels de dire, mais si les gens pensent qu'on ne peut pas gagner, ben regardons ça. Mm-hmm. Mais je pourrais aller, je ne vais pas m'aventurer trop, mais quand on regarde le hockey, que je connais un peu moins comme sport, mais quand on regarde la manière dont le sport s'exerce, la manière dont le sport s'exerce dans les pays scandinaves, mm-hmm. Ce dont on parle dans l'approche, dans la place de la compétition, je pense que c'était la Finlande, si je ne me trompe pas, ou la Suède qui avait gagné il y a quelques années, puis il avait gagné aux Olympiques ou aux championnats du monde. Et on s'était questionné sur... il y a plusieurs articles qui ont été écrits sur qu'est-ce qu'ils font en bas âge d'un point de vue développemental. C'est très proche de... laissons les jeunes jouer, puis mm-hmm. soyons proches de leur développement et du plaisir plutôt que dans l'aspect compétitif. Donc, moi, et si on sort de la sphère sportive, en entreprise, ça ne fonctionne pas, une approche autocratique qui est plus dans voir que tu produises, mm-hmm. où on se fait croire que ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas longtemps. Mm-hmm. Donc, d'être un humain qui est proche des gens, puis d'être à l'écoute, d'être dans du questionnement, ça ne génère pas nécessairement des impacts immédiats comme l'approche carotte-bâton. Mais ça génère à moyen long terme une approche qui est plus positive et qui génère une meilleure performance. Donc, moi, c'est ça en quoi je crois. Puis je pense que le milieu sportif en général en est un peu là. C'est plus, à l'exception de certains milieux qui malheureusement sont vraiment dans une approche plus punitive, mm-hmm. Puis je pense qu'on est rendu à une étape où c'est plus de le rendre explicite. Qu'est-ce qu'on fait collectivement pour s'outiller, se former, contribuer en fait à ce que ce soit pas juste intuitif puis implicite. Et ça, je pense qu'on est rendu à cette étape-là, mais je pense que les gens en sont là. Je serais étonné que quelqu'un qui nous écoute dise « Moi, ça me parle pas d'être un humain proche des autres. » Je pense que les gens sont intéressés. C'est plus comment qu'on met en application.
Et Fabrice, j'aimerais ça qu'on enchaîne sur la notion de plaisir.
T'sais, quand on rencontre des groupes, nous, chez Sportaid, c'est le message qu'on passe aux gens dans les entrevues avec les médias. Ce qu'on dit, c'est oui à la performance, mais pas au détriment de l'expérience sportive. Il faut que nos jeunes aient du plaisir. Puis ça, ben, on passe ces messages-là, puis tout le monde est d'accord, puis tout le monde consent, tout le monde est prêt à signer, peser fort pour les quatre copies, sur les quatre copies. Mais une fois qu'on arrive dans l'aréna, les comportements ne sont pas au rendez-vous. Comment on peut s'expliquer ça? Puis qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut y arriver à changer ça?
Oui, bien, j'ose croire que oui. Puis je vais parler des situations de pratique et des situations de match. Pour moi, il y a deux distinctions à faire.
Ouais.
Une des choses dont, qui m'interpelle et qui interpelle pour trois points dans le contexte des pratiques, c'est tout ce qui concerne l'apprentissage par le jeu, ou des fois on va référer à l'apprentissage expérientiel, qui est quand même assez important. Si on place en fait différentes méthodes d'enseignement, l'approche plus traditionnelle qu'on va voir, c'est une approche qui est très magistrale, où il va y avoir le coach qui va peut-être expliquer les points techniques d'un mouvement donné, parler de la manière dont ça se manifeste d'un point de vue tactique. Puis c'est assez tard dans l'apprentissage qu'on va intégrer le tout dans un contexte de jeu. Donc, mon opinion, c'est que c'est moins plaisant, puis c'est moins engageant pour les jeunes dans l'apprentissage, comparativement à une approche qui intègre le jeu dès le départ et qui fait en sorte qu'à travers le jeu, les jeunes s'amusent plus, ont plus de plaisir et même découvrent les apprentissages quand le coach même peut questionner les jeunes sur leur expérience vécue. Donc, un exemple concret que je peux donner pour comparer les deux approches, parce que c'est drôle, je l'ai en mémoire relativement récente. On l'a même fait avec nos formateurs chez Pour 3 Points. Puis Alexandre qui est collègue chez Sportaid, qui a vécu l'expérience, mais la comparaison, là, c'était en ligne, hein, puis on n'est même pas dans le contexte sportif, mais de comparer comment prendre une photo, une bonne photo avec son téléphone, de dire, moi, j'aurais pu aller puis énoncer les 10 principes pour prendre les bonnes photos, puis faire en sorte que les participants, on parle d'adultes, là, qui m'écoutent, qui prennent les notes, puis qu'on le mette en application après. Puis on a fait l'inverse, l'approche par le jeu, c'est, je leur ai dit, on va faire un concours où vous avez 15 minutes pour prendre la plus belle photo que vous pouvez de votre appartement, une photo qui paraît bien sur Instagram. Mais là, tout le monde s'active, puis il n'y a pas personne qui a été... Il n'y a pas d'apprentissage magistral à ce moment-là. C'est vraiment... On s'active.
Apprendre par l'expérience.
On a du plaisir, on a de l'expérience, puis là, on rit parce que tout le monde est créatif. Même, il y avait une photo de toi. Je pense que la photo d'Alexandre, c'est la photo de toi. Donc, finalement, il y a un plaisir, puis... Après ça, on parle de mais qu'est-ce qui était les caractéristiques des meilleures photos. Puis là, il y a un questionnement critique. Et ça fait en sorte que c'est plus engageant parce que c'est pas juste j'écoute mon coach. Si on prend des jeunes, par exemple, parce qu'on peut prendre d'autres exemples qui s'appliqueraient dans le domaine sportif pour n'importe quel apprentissage. Le jeune est plus engagé dans sa réflexion critique parce qu'il dit qu'est-ce que dans mon expérience a fonctionné. C'est souvent aussi plus engageant émotionnellement parce que s'il y a un jeu, c'est très proche de la compétition. C'est comme, c'est pas juste j'écoute puis je répète le même mouvement, c'est que je m'active pour de vrai. Il y a un apprentissage social aussi, donc tout l'humain est activé dans ces contextes-là. Fait qu'en pratique, plus les coachs font ça, plus c'est des pratiques qui sont riches, puis plus c'est des pratiques justement qui font en sorte que l'expérience de compétition, on la vit réellement, par opposition à répéter les mêmes mouvements robotiques qui font en sorte qu'on ne vit pas une expérience de match. Là, je vais dans le trait technique, à l'exception des mouvements qui requièrent un apprentissage technique spécifique répétitif, comme par exemple, je prends le basketball, le lancer, la gymnastique, ça va être une répétition qui fait en sorte qu'on va devoir être à la perfection. Beaucoup de mouvements qu'on pense qu'ils doivent être répétés à la perfection, c'est mieux de juste laisser les personnes jouer puis les intégrer avec d'autres variables que juste une variable linéaire. Donc, ça, c'est en pratique. Le plaisir est important et... Pour les coachs, c'est souvent challengeant parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont moins de contrôle. Puis là, c'est comme, ouais, mais je les vois pas apprendre le mouvement que je veux qu'ils apprennent. Mais ils apprennent quand même. Puis juste de laisser les jeunes apprendre. Donc, c'est ça l'expérience, l'apprentissage expérientiel par le jeu. En contexte de match, de ce que j'ai pu observer, le défi est variable parce qu'il y a non seulement les entraîneurs, Il y a les aussi parents. Les parents.
C'est là où j'allais.
Ouais, c'est ça. T'as les entraîneurs, t'as les parents. Et là, tout ce qu'on s'est déjà dit depuis le début par rapport à la connaissance de soi, par rapport à l'intention première, ben c'est là où, pour l'entraîneur, ça invite une réflexion sur ben, c'est quoi son intention à ce moment-là. Et même malgré l'intention, le feu de l'action, c'est un moment où, même malgré la bonne intention de dire « oui, oui, je veux que les jeunes aient du plaisir », il y a des réactions, en fait, qui émergent, qui font en sorte que les gens disent « ben pourquoi j'étais fâché à ce moment-là? Pourquoi j'étais proactif? » Et si je vais dans le très concret, juste qu'un entraîneur prenne des notes par rapport à « ben je réfléchis à pourquoi est-ce que je m'énerve dans un match? » Et de manière incohérente avec mon intention, permettre de se connaître un peu plus puis d'éviter des comportements qui sont des comportements impulsifs. On pourrait dire la même chose pour les parents. Et là, je ne veux pas me placer comme j'ai une vérité absolue par rapport à comment les parents devraient interagir. Sauf qu'en même temps, mon opinion, c'est que ce n'est pas le rôle du parent de... c'est pas le rôle du parent de se substituer à l'entraîneur. Et c'est pas non plus le rôle du parent... En fait, c'est pas utile pour personne que les parents croient qu'un match de soccer des jeunes de 12, 13 ans, c'est la Coupe du Monde. L'expérience sportive, elle en vient à être réduite ou détériorée, en fait.
Je fais un parallèle avec ce que tu as nommé précédemment en Scandinavie. Je pense que c'était en Norvège. Jusqu'à l'âge de 13 ou 14 ans, on ne tient pas compte des pointages. Aucun résultat. Puis on a juste à observer, là, tu vas dans un stade de soccer, puis tu regardes des jeunes de 6, 7, 8, 9 ans, qui perdent 9-0, puis là, ils comptent le but qui fait qu'ils vont perdre 9-1, mais ils sont fous balais.
Tout à fait. Tout à fait.
Mais les parents, par exemple, c'est exact. Autre chose. Mais comment on peut, tu sais, quand on, une fois qu'on dit ça, puis je veux pas qu'on soit dans les généralités, moi, je reconnais que ce ne sont pas tous, les parents ne sont pas tous pareils, mais comment on peut penser accompagner des entraîneurs pour changer des choses, développer, mais comment on peut penser changer les choses avec les parents? Une campagne sociétale, oui, mais encore, ça va prendre plus que ça.
Oui, bien, certainement en campagne sociétale, donc c'est des messages de grand public qui s'appliquent. Je pense que les clubs, les écoles, les programmes sportifs, que ce soit les clubs civils ou scolaires, n'ont pas le contrôle des parents. Mais ont une certaine forme de responsabilité par rapport à leur interaction avec les parents. Quand je pense à l'entraîneur dont je parlais un peu plus tôt, de quand j'étais en secondaire 1, puis son nom c'est Didier Van Dyck, une des choses qui m'a impressionné, puis là j'ai le souvenir encore spécifique, puis c'est des choses que j'encourage en contexte de pour trois points, ben de prendre la peine de rencontrer les parents en début d'année et de partager une forme de philosophie, de partager ses croyances et de demander, en fait, ou de placer certaines limites est important. Et moi, j'ai eu à gérer à plusieurs reprises des situations avec des parents dans le contexte de l'interaction. Donc, il y a certainement une forme de responsabilisation des entraîneurs, mais des programmes sportifs à interagir avec les parents, de dire « mais ça, ça a dépassé les limites de l'acceptable ». Et donc, ça, c'est à condition que le programme lui-même soit assis sur des croyances ou des valeurs qui honorent, en fait, l'exercice d'un sport dans un esprit sain. Et la dernière chose que je nommerais, là, on est parti des campagnes sociétales à la responsabilité des entraîneurs et des programmes. Je pense qu'entre les deux, ce serait très difficile, d'obliger les parents à suivre une formation intensive ou quoi que ce soit, mais de faire de la sensibilisation qui est accessible aux parents sur les bonnes pratiques, sur qu'est-ce qui fonctionne puis qu'est-ce qui fonctionne pas aussi, peut être utile. Parce qu'à la fin de la journée, souvent, la raison pour laquelle les parents agissent d'une manière ou d'une autre, il y a par moments le souhait que l'équipe sportive performe ou encore... Le souhait que le jeune atteigne des plus hauts niveaux. Puis dans les deux cas, il y a des parents qui sont convaincus que c'est par, justement, des cris puis des comportements agressifs qu'ils vont aider l'enfant ou l'équipe, mm-hmm. alors que ce n'est pas le cas. Et donc, juste d'avoir le minimum d'informations qui permet de dire, mais finalement, comme tu nommais par rapport à la Scandinavie, juste d'être en forme d'encouragement, qu'il y ait un tableau indicateur ou pas, l'encouragement a une valeur et est plus productif que une approche qui est vraiment punitive. Donc, de faire la morale aux parents, je pense que c'est ça qui peut être difficile, qui peut être contre-productif, mais de parler de qu'est-ce qui fonctionne, de parler que finalement l'encouragement a beaucoup plus de valeur, parce qu'il y a d'autres personnes comme l'entraîneur qui vont avoir d'autres rôles, mm-hmm. l'arbitre a un autre rôle, les jeunes eux-mêmes ont des rôles différents. Donc que le parent soit conscient de son rôle dans la sphère sportive m'apparaît à être quelque chose de pertinent. Puis c'est sûr qu'on va pas... gérer, on va pas régler tous les enjeux parce qu'il y a des parents qui, personnellement, vont avoir des problématiques personnelles qui vont mm-hmm. faire en sorte que ça se transmet dans le contexte sportif. Puis là, ben, il y a des fois un moment où ces parents-là peuvent être invités à ne même pas participer parce qu'ils nuisent carrément à l'environnement. Mais autrement, je suis peut-être un optimiste ou un naïf, mais j'ai la croyance avec un minimum de balises mises par les clubs et les programmes, de la sensibilisation à large échelle, mais également de l'information qui permet aux parents de savoir à quoi s'en tenir est pertinent. Puis en fait, l'un n'exclut pas l'autre, parce mm-hmm. que d'outiller les clubs à informer les parents est aussi une manière, en fait, de soutenir les clubs dans leur approche aux parents.
Je suis content d'entendre que je ne suis pas le seul à penser que c'est possible. Ça va être long, mais c'est possible, je pense aussi. Il y a quelque chose dont on a déjà discuté, sur lequel j'aimerais t'entendre. Moi, c'est la notion, la relation d'autorité des entraîneurs avec nos jeunes sportifs. Comment on peut arriver à assurer un équilibre dans une saine relation d'autorité? Parce que, bon, comme entraîneur, comme coach, on reconnaît qu'il y a un lien, il y a une direction à donner. On sait aussi que les jeunes sportifs ont besoin d'être dirigés, d'être encadrés. Mais comment assurer que ce soit sain? Parce qu'il y a des exemples, on pourra en nommer là, longtemps, des images qui nous viennent à l'esprit. J'aimerais ça t'entendre là-dessus, moi.
Donc, dans l'approche d'autorité, coach jeune.
Oui.
Un des points de départ, puis si je m'inspire de qu'est-ce qu'on fait, pour trois points, un des points de départ, c'est tout en reconnaissant la relation d'autorité qu'un entraîneur a, c'est très tôt dans la relation qui se construit avec les jeunes individuellement et collectivement de discuter ensemble des normes auxquelles on se tient dans la manière dont on va travailler pour l'année, en fait. Et donc, à ce moment-là, un entraîneur qui est assis dans son autorité est capable de communiquer ce à quoi il ou elle croit, mais peut faciliter une conversation justement pour susciter l'adhésion des jeunes athlètes dans le contexte de la relation. Donc, plutôt que d'en arriver à, si je fais un comparatif, plutôt que d'en arriver à dicter des principes, puis de dire, ben voici c'est quoi mes principes, puis je vous les présente et vous les prenez ou vous les laissez, ou vous les prenez pour faire partie de l'équipe, en fait. Ce qui suscite peu d'adhésion ou peu d'engagement, ça peut être d'avoir une conversation qui, généralement, en arrive à générer une forme d'adhésion ou les mêmes résultats. Et cette conversation-là, en fait, au point de départ, elle est vraiment importante parce que même quand une règle est énoncée, elle peut être comprise de différentes manières. Et même quand elle est discutée à la base, elle peut être comprise de différentes mm-hmm. manières. J'étais sur un autre podcast, puis il y a une histoire que j'ai racontée à ce sujet-là. Moi, il y a 3 ans, j'étais coach de basketball pour les jeunes de secondaire 1 et 2 à l'école secondaire Saint-Henri à Montréal. Et suite à une conversation, à réfléchir à ben, c'est quoi une présence, c'est quoi l'obligation d'être présent dans un contexte, est-ce que c'est obligatoire d'être présent aux pratiques et aux matchs? Pour des jeunes, c'est pas une évidence. J'aurais pu dire c'est obligatoire, point. Puis avec une conversation, on en est venu à convenir que la présence est obligatoire, à l'exception des cas de maladie et à l'exception des cas d'urgence familiale. Et donc, les jeunes, moi, ils en ont parlé. Je pensais qu'ils en avaient compris. Arrive l'Halloween, puis il était 4. Et je pense, si je ne me trompe pas, présent dans le gymnase. Puis à la pratique suivante, pour eux autres, les jeunes, ils avaient vraiment compris qu'une urgence familiale incluait l'Halloween. Mais cette conversation-là était super riche parce qu'elle a généré, encore une fois, un échange additionnel par rapport à... Mais c'est quoi le sens de... Pourquoi, finalement, c'est important, une présence? Puis de continuer cet élément-là. Moi, je crois énormément... Là, j'ai parlé des règles du début, mais là, on a eu un moment dans ce contexte-là où, clairement, pour moi, comme entraîneur, c'est un problème si je me présente à une pratique, puis on ne peut pas pratiquer. On a fait un peu de travail individuel. Je me souviens plus si on avait annulé la pratique ou fait du travail individuel. Mais d'imposer une forme de punition à ce moment-là, aurait pas été productif parce que les jeunes, ils pensaient vraiment qu'ils faisaient quelque chose de pertinent ou qu'ils respectaient les normes. Mm-hmm. Puis je rajouterais que l'édiction du départ peuvent aussi inclure une entente sur les conséquences d'un manquement ou un autre. Donc là, les jeunes eux-mêmes, quand ils en viennent à dire, ben oui, si on manque une pratique ou si on agit de telle manière, voici quelle va être la conséquence. Ils ont décidé de leur propre destinée entre guillemets, ce qui devient plus facile dans l'implémentation parce que c'est le groupe en fait qui a décidé. Mm-hmm. Et encore là, je reviens sur le fait que l'entraîneur se place pas uniquement comme un jeune. Ou un athlète basé sur la connaissance de l'athlète, un entraîneur qui a plus d'expérience, qui a vu d'autres équipes, peut amener des opinions, peut amener ses questionnements, les inclure dans la conversation. Mais ça fait en sorte que l'autorité est exercée en favorisant une forme de compréhension du groupe plutôt qu'une forme d'imposition. Ce qui exclut pas des cas où il y a des situations peut-être non prévues qui font en sorte que un entraîneur doive répondre à cette situation-là. Si je peux prendre un cas d'un acte violent qui se passe sur le terrain, mm-hmm. commis par un athlète, ben ça peut nécessiter une forme de sanction et ou pas, dépendamment des raisons pour lesquelles c'est survenu. Et donc, ça fait pas en sorte que l'entraîneur, à certains moments, exerce son jugement, dire peut-être que par moment, un comportement peut justifier une exclusion de l'équipe. Mais le plus possible d'être en conversation, puis le plus possible inclure les athlètes dans la conversation, me semble pertinent.
On l'a mentionné en introduction, tu es aussi administrateur chez SportAid. Pourquoi c'était important pour toi? Pourquoi tu avais envie de te joindre à la mission du sport sain sécuritaire?
Bien, pour moi, j'ai parlé de Pour trois points à quelques moments, mais pour moi, Pour trois points, c'est un véhicule. Hein? C'est un véhicule qui permet d'exercer ce en quoi je crois. Dans un contexte spécifique, donc là, on parle de formation des entraîneurs, on parle d'égalité des chances, mais l'exercice du sport dans des conditions saines, c'est pleinement cohérent. Et de pouvoir utiliser mon expérience que j'ai bâtie dans le contexte de Pour trois points et dans d'autres contextes organisationnels, comme administrateur notamment, m'apparaît pertinent. Donc, j'aime m'impliquer dans des contextes organisationnels où... l'intention est cohérente avec mes valeurs, puis pour moi, SportAid, ça en fait partie. Je pense que cette organisation-là, SportAid, a un mandat, mais également une manière d'opérer qui rejoint un large public de la communauté sportive et de contribuer à ce que les messages se passent et le soutien soit aussi présent de manière à ce que les athlètes puissent vivre une expérience positive m'apparaît important. Donc, ça me parle, moi, la question de non seulement être présent quand il y a une problématique, donc toute la question des lignes d'appel qui permettent en fait de répondre à des problématiques, mais également agir en amont, donc de transmettre des messages, m'apparaît essentiel en fait dans la communauté sportive au Québec et plus largement.
On ne peut pas s'asseoir avec toi sans parler aussi d'inclusion. Tu l'as mentionné dans ta réponse précédente. Tu as fait une série de documentaires qui est vraiment extraordinaire, Briser le code. Dans le sport, il y en a des codes. Et ils sont pas favorables à l'inclusion de gens, soit par la différence corporelle, la couleur de leur peau, leur orientation sexuelle. Les communautés autochtones aussi sont touchées par ça. Qu'est-ce qu'on peut faire en s'inspirant de ce que tu as produit? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour briser les codes dans le sport? T'sais, dernièrement, il y a une fédération qui nous a contactés puis qui nous faisait remarquer que dans la natation artistique, il n'y a pas de filles de couleur. Puis je disais à Alexandre dans l'équipe, je disais, ça me fait allumer sur le patinage artistique, c'est la même chose. Ça a pris du temps avant que des filles de couleur se distinguent et fassent des podiums. Puis il y a une histoire qui est arrivée avec une patineuse en France qui a été privée d'une médaille d'or, puis c'était clairement relié à la couleur de sa peau. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le sport pour aller au-delà de ça?
Ouais. Je le vois en deux. Il y aurait beaucoup à dire, mais ce qui me vient à l'esprit, il y a deux choses différentes. Premièrement, il y a la question de l'accessibilité au sport. Donc, pour qui le sport est accessible? Juste ce questionnement-là illustre que dans certains contextes, il y a des humains, des jeunes, des athlètes qui n'ont pas accès à certains sports. Donc, comparativement à des sports comme le soccer ou le basketball, qui sont des sports qui vont rejoindre, si on parle de perspective de défavorisation, qui vont rejoindre des personnes qui sont affectées par la défavorisation. Et souvent, c'est des personnes, justement, des personnes racisées. Donc, ça, c'est un élément. On va regarder des sports comme, tu as parlé de natation, puis de patinage artistique, mais on pourrait dire la même chose du tennis.
Absolument.
On pourrait dire la même chose du golf. Mm-hmm. On pourrait dire la même chose des sports de plein air. Il y a énormément d'activités de loisirs et de sports qui, pour des raisons socio-économiques, sont pas accessibles. Mettons qu'on mette de côté la question de la COVID-19 qui affecte en fait l'ensemble des organisations sportives, de réfléchir aux conditions économiques qui vont permettre d'aller chercher en fait certains jeunes de certaines populations m'apparaît important. Puis il y a de plus en plus d'organisations qui le font en plein air. La réflexion est présente de plus en plus. Félix Auger-Aliassime en tennis a un programme avec son père qui veulent favoriser l'accès au tennis pour des jeunes. J'ai pas souvenir si c'est des jeunes racisés spécifiquement, mais je pense qu'il y a une perspective aussi de faire en sorte d'élargir le bassin de jeunes qui font du tennis puis qui ressemblent à Félix parce que c'est assez exceptionnel. Ça, c'est présent. Quelles conditions socio-économiques font en sorte qu'on exclut les jeunes? Puis j'ai confiance que les gens qui gèrent des programmes peuvent mettre en place des structures qui soutiennent ça, d'autant plus qu'il y a de plus en plus de bailleurs de fonds qui soutiennent l'inclusion. Donc, des organisations comme la Fondation Bon Départ, par exemple, qui est très proactive, explicitement, en fait, maintenant questionne les organisations sur « on va vous donner du financement, mais à condition que vous montriez que vous êtes inclusif ». Donc, l'accessibilité devient un facteur clé, surtout pour les sports qui atteignent des populations privilégiées. Et là, j'ai parlé des facteurs socio-économiques, plus économiques, qui affectent certaines populations. Donc, ça, c'est une des choses. La deuxième des choses, il y a certainement un questionnement sur c'est quoi l'intention... C'est quoi l'intention de la pratique sportive? Donc, si on prend la pratique sportive traditionnelle, classique, puis là, je vais l'élargir un peu la réflexion, c'est sûr que l'univers sportif actuel, avec la compétition, fait en sorte que c'est genré. Il y a du sport masculin, du sport féminin, puis on veut performer. Donc, finalement, les personnes avec certains handicaps, la diversité corporelle est un facteur d'exclusion à ce moment-là. Le questionnement sur sont où les espaces pour pratiquer un sport sans intention de victoire? Et là, on pourrait se poser la question, quand on enlève le scoreboard, ça ressemble à quoi une pratique sportive qui est plus inclusive? Un exemple, un des chercheurs qui a travaillé avec pour 3 points, William Falcao, dans son mémoire de maîtrise, a parlé d'activités très simples, de sports mixtes, qui font en sorte que les garçons en venait à mieux respecter les filles Puis les filles se valorisèrent en disant, moi, je peux compétitionner avec des garçons. Mais ça peut exister uniquement si des gens qui mettent en place la structure sportive se disent, ben OK, au-delà du sport, qu'est-ce que je veux créer d'autre comme intention? Et si l'intention explicite, elle est là, là, on peut se dire, ben, on va aller chercher des personnes qui ont des qualités athlétiques différentes parce qu'on va vouloir valoriser autre chose. Donc, qu'est-ce qu'on compte? Qu'est-ce qu'on comptabilise finalement? Est-ce que c'est le pointage ou on comptabilise d'autres éléments? J'ai pas l'attente que demain matin, tout le monde élimine les points, les tableaux indicateurs, mais je pense que de voir tranquillement, pas vite, des structures sportives qui permettent ça. Et je pense que même nos ligues peuvent éventuellement favoriser ça. Pourquoi pas?
Un peu comme l'Ultimate Frisbee le fait.
Exactement. Mm-hmm. Exactement. Ce serait un exemple, l'exemple, en fait, qui est l'exemple modèle, en fait. Mm-hmm. On en est rendu là, selon moi. Puis la troisième partie, donc j'ai parlé d'accessibilité, j'ai parlé également de, ben, en fait, d'accessibilité économique. Il y a l'aspect aussi d'accessibilité en termes de le sport lui-même, comment est-ce qu'on peut inclure des individus. Puis finalement, il ne faudrait pas négliger aussi, selon moi, les comportements ou les messages qui sont véhiculés dans la sphère sportive. Donc là, heureusement, le sport, souvent la couleur de ce qui compte, c'est vraiment l'uniforme. Je pense que dans nos sociétés, on arrive à avoir assez naturellement un espace où on va pas discriminer quelqu'un par rapport à sa couleur de peau, par exemple. Je dis pas que c'est absent, mais je nommerais le fait que c'est dans une société, en fait, moi, j'ai pu voir que l'endroit où les classes sociales se mélangeaient, où il y avait une certaine forme de mixité, c'est dans les tournois de basketball. C'est là que ça se passe. Oui. On pourrait dire de soccer, on pourrait dire de football, on pourrait dire d'autres sports aussi, mais c'est là que ça se passe. En même temps, il y a une problématique particulière, entre autres dans le hockey, où principalement dans le hockey, où c'est vraiment l'espace où des insultes racistes ont malheureusement cours. Et l'actualité en a démontré des différents exemples. Dans le documentaire « Briser le code », on en parle. Pierre-Alexandre Volant, qui est un homme autochtone qui a vécu du racisme comme personne autochtone, Jonathan Diaby, qui était, je pense, en midget 3, qui a vécu des événements similaires. Et là, je pense que le hockey a une problématique particulière de devoir adresser vraiment la question du racisme et la question de, ça revient à comment est-ce que les parents communiquent dans les estrades. Mm-hmm. Donc, cet enjeu-là, il est hautement présent. Là. Puis je pense qu'on ne peut pas juste parler de généralité, c'est-à-dire, il y a un problème spécifique là, puis il faut l'adresser. Et ce problème-là, moi, je n'ai pas constaté qu'il était présent dans d'autres sports collectifs. Non, c'est vraiment un problème de hockey en ce moment.
Absolument. Puis l'année passée, tu vois, on a fait une tournée de consultation. On est allé dans des communautés autochtones sur la Basse-Côte-Nord. Puis les gens qu'on rencontrait, c'est ce qu'ils nous nommaient. Là. Dans le contexte du hockey, ils vivaient énormément de remarques, de propos là, racistes. Là. Fabrice, c'était vraiment un bon moment, vraiment très apprécié. Merci beaucoup. Ça a été une belle discussion. Très content. J'espère que les auditeurs vont apprécier aussi.
Bien, merci à toi, puis merci à Sportel.
Merci, bonne journée.
Merci.